Le masque sans la plume.
Gentes dames de la cour. Cette semaine, je suis allé voir Jeanne du Barry de Maïwenn. Ce film réalisé, écrit, tourné, monté, dirigé par Maïwenn, donc, raconte l'ascension et la chute de Jeanne du Barry, la deuxième maîtresse principale du roi Louis XV, jouée par Johnny Depp. Donc c'est l'ascension de Jeanne du Barry, puisque à la base c'est une fille du peuple, quoi, de la populace. Mais c'est un comte qui la prend sous son aile et qui l'éduque. Elle assiste à des dîners mondains où c'est vraiment la grosse teuf, puisqu'il s'amuse à faire des synonymes, à rester des synonymes. Et elle finit par atterrir. C'est même pas un concours de circonstances, hein, je crois que c'est vraiment un processus de recrutement classique où le roi tombe sur elle à la cour et tombe amoureuse d'elle, évidemment, puisque c'est Maïwenn. Visiblement, elle avait un petit penchant pour le sexe. Mais le sexe érudit, pas le sexe de courtisane basique. Non, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle devient courtisane en chef. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, du coup, c'est un film de Maïwenn, par Maïwenn, pour Maïwenn. L'histoire de ce film, c'est l'analogie entre sa vie perso à elle, et professionnelle aussi, de l'ascension d'une meuf dans un milieu d'hommes avec des conventions hyper strictes. Et j'imagine que c'est une façon à elle de dire bah, « moi je suis arrivé dans le cinéma, c'est pareil, j'ai fait péter les conventions, j'ai plus ou moins réinventé une partie du cinéma français, tout le monde me déteste du coup ». C'est un peu autocentré, au point qu'elle a mis donc son fils comme un des acteurs dans le film. Dans les rôles principaux, le duo, on a donc évidemment Maïwenn en actrice principale, qui est aussi au cadre, à la lumière et au son. Enfin, Maïwenn qui prend globalement toute la place dans le film. Et donc, Johnny Depp en Louis XV, qui fait une performance qui n'est pas si mauvaise, étant donné qu'il parle français, mais avec un accent évidemment extrêmement reconnaissable. Donc en fait, il parle pas beaucoup. Il s'en sort quand même plutôt bien. En autre acteur, il y a Melville Poupeau. Il joue le comte du Barry. C'est son proxo, en fait. C'est son proxénète. Mais c'est son mari. Mais à la base, c'est son proxénète. Tiens, plus ou moins un bordel, et c'est lui qui se charge de faire en sorte que le roi et Jeanne se rencontrent. Sinon, dans un autre rôle très intéressant, Benjamin Laverne, de la Comédie Française, le valet du roi, tout guindé, tout coincé, qui est super, super attachant, qui forme Maïwenn au protocole, ce qui n'est pas une mince affaire, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de détails qui sont vraiment très très ridicules, et c'est d'ailleurs peut-être la partie la plus marrante du film. Donc Jeanne du Barry, c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes hors compétition, donc qui a fait l'ouverture, et qui du coup nous a donné une belle polémique, puisqu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de rendre un hommage pendant 10 minutes, 15 minutes à Johnny Depp. Une façon de dire « soutiens frérot, tout ce qui t'arrive est injuste ». Donc l'hommage du Festival de Cannes et de tout le gratin du cinéma est quand même extrêmement gênant. Malgré tout, je suis obligé de reconnaître que j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quand même plein de moments où j'ai rigolé dans le film, surtout la partie où on se fout la gueule de toute la cour. C'est un bon film, mais c'est dur de l'enlever de tout ce qu'il y a autour du film, quoi. Je pense que je mettrais quand même 3 bonnes étoiles, quoi. Il faut que je le dise avec le ton. Je mets 3 étoiles au film. Et vive le roi.
Je suis allé voir L'amour et les forêts, le dernier film de Valérie Donzelli qui était notamment projeté à Cannes. C'est l'histoire de Virginie Efira qui rencontre quelqu'un dont elle tombe amoureuse alors qu'elle habite dans sa petite ville en Normandie, qu'elle a un peu du mal à faire des rencontres. Peu à peu, ce mec parvient à la convaincre de déménager dans le Grand Est, ce mec qui devient son mari d'ailleurs. Et là-bas, sa personnalité à lui se dévoile peu à peu. C'est un peu l'histoire d'une relation toxique et de l'emprise qu'il construit peu à peu sur elle. C'est un film très traumatisant globalement, c'est 1h35 de pure souffrance. Mais c'est un bon moment quand même, très bizarre de dire comme ça, mais... Comme tout le monde, je trouve que Virginie Efira joue très bien dans le film. Faut savoir qu'elle joue deux fois, puisqu'elle joue aussi le rôle de sa sœur jumelle, ce qui est d'ailleurs assez utile pour les gens qui veulent savoir s'ils préfèrent Virginie Efira avec frange ou sans frange. Je trouve qu'elle est très forte pour jouer son personnage qui s'efface peu à peu derrière celui de Melville Poupeau, et on sent à quel point elle est désemparée. Et donc je trouve que c'est une masterclass, une de plus pour Virginie Efira, quoi. Melville Poupeau dans le film, je trouve qu'il est sombre même physiquement, quoi. Il a toujours les yeux hyper noirs et tout, donc je l'ai trouvé hyper flippant. Une des grandes réussites du film aussi, c'est qu'on a vraiment vraiment peur de lui, quoi. Toute la deuxième partie du film, même le dernier tiers où vraiment les choses s'enveniment, j'étais les mains crispées sur mon accoudoir et tout. C'est vrai que ça m'a un peu changé ma perception de lui. Je pense que ça va être très bizarre de le voir dans d'autres films, et même de le croiser dans la rue d'ailleurs. Je pense que je pourrais me cacher derrière des poubelles si jamais je tombe sur lui en plein Paris. Je pense que même lui, peut-être sa famille, le regarde bizarrement maintenant. Enfin, y a des red flags gros comme des éléphants qu'elle voit pas dès le début du film. C'est très simple, mais le moment où ils sont sur les quais à Paris au tout début et qu'ils crient « je t'aime » à gorge déployée, moi je pense que je serais déjà parti en courant ou en plongeant dans la scène. Enfin, il y a plein de moments où tu te dis « mais comment elle ne part pas ?» Mais après, elle le joue, elle le vend très bien. On sent très bien que, évidemment, l'idée lui traverse l'esprit, mais ça lui paraît pas possible pour plein de raisons de partir. Et sur ces points-là, le film est très réussi. Mais j'ose croire que moi, à sa place, j'aurais décampé en courant dès 10 minutes d'interaction avec lui. D'ailleurs, je trouve qu'il a pas de charisme, donc dès le début je n'aurais pas été intéressé, je pense, mais c'est un autre sujet. Un des points positifs du film dont globalement les gens n'ont pas trop parlé, même si pourtant c'est présent dans le titre, c'est que je trouve que en fait ça m'a un peu donné envie d'aller dans le Grand Est. Je sais pas, les forêts et tout, il y avait une ambiance hyper sympa, c'était presque un personnage du film. Et je me disais ouais que je me ferais bien des petites vacances à Nancy là, avec mon petit vélo, j'irais marcher dans la forêt, j'irais faire du tir à l'arc, ça a l'air chouettos quoi. Si je devais donner une note au film, ce serait un bon 3,5, je pense. Globalement, j'ai passé un bon moment, au contraire des personnages principaux. Tu ris globalement très peu, tu perds des kilos de litres de sueur, mais c'est quand même assez réussi, je trouve. Rien que pour les acteurs et leur performance sur le film, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir.
Je suis allé voir Fast and Furious, le 10e du nom. Le topo est assez simple. Il y a un barbecue au début, des courses de voitures, des bagarres, des menaces sur la famille de Vin Diesel. Et je n'irai pas jusqu'à spoiler la fin, mais il y a une fin différente des 9 autres opus. La mission, eux ils travaillent pour ce qui s'appelle l'agence, qui est un peu le je fais le bien, je fais le mal, j'arrête des méchants, et parfois oui, parfois non. Et dans un Fast and Furious précédent, et là on le comprend parce qu'il rejoue la scène, enfin il remontre cette scène, Vin Diesel, donc Dominique Toretto, tue au Brésil un dangereux psychopathe, et on voit en arrière-plan qu'il y a son fils. Et 12 ans plus tard, le fils est devenu grand, c'est Jason Momoa qui le joue et qui le joue très bien et qui est complètement psychopathe. Et son objectif, c'est pas de tuer Dominique Toretto, mais c'est de le faire souffrir à tout prix, donc en s'en prenant à tous ses proches. C'est vraiment le All-Star Game du cinéma américain. Donc on a du John Cena, du Vin Diesel, qui joue Dominique Toretto, qui n'a rien à voir avec Philippe. Petit point fashion, il est donc à 90% Marcel pour montrer ses biceps saillants. À la base, il est garagiste, enfin, évidemment il s'y connaît en voiture, vu qu'il les conduit de manière rapide et furieuse. Et il a un espèce de costume, une petite chemisette avec son nom marqué sur le cœur. Je trouve ça très beau, et c'est son meilleur outfit. Il y a Jason Statham, il y a Brie Larson, il y a Ludacris, enfin vraiment une pelletée de stars qui apparaissent, qui disparaissent, qui se bagarrent principalement. Ils voyagent beaucoup, on passe du Vatican à l'Antarctique, il y a des bagarres au Brésil aussi. Ça parle dans toutes les langues, c'est vraiment le monde raconté par Louis Leterrier, qui est français, Cocorico, qui est plutôt cinéma d'auteur lui, avec Le Transporteur, Hulk, Insaisissable, Le Choc des Titans, vraiment on est dans le cinéma d'auteur, on sent que c'est un truc qu'il aime bien. Et donc on voyage un peu partout à travers le monde, le bilan carbone une nouvelle fois il est pas bon quoi. J'ai effectivement lu qu'il y avait un énorme budget sur ce film. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas vu le 9 et que je vais peut-être un peu spoiler, à un moment, ils vont quand même conduire dans l'espace. Là, il n'y a pas ce giga côté « waouh, on peut pas aller plus loin que ça ». On est un peu redescendu en gamme. On sent qu'il y a du budget en marketing, en effets spéciaux, en voitures, notamment avec beaucoup de tôles cassées. Ça a dû coûter très cher en assurance et on embrasse tous les assureurs qui nous écoutent. Et je pense que Vin Diesel en a pris une grosse partie pour lui. Je suis allé voir Fast and Furious 10 parce que j'avais un besoin incompressible de me vider le cerveau et que ce film n'est pas du tout fait pour réfléchir. Je sais que c'est un film très profond. Au niveau des citations, on a notamment Vin Diesel qui dit, je cite, « Sans la famille, vous n'êtes rien ». Et je veux dire, ça vaut toutes les palmes d'or, quoi. Et visiblement, j'ai lu sur un site américain que c'était la citation favorite de Fast and Furious 10 selon les téléspectateurs. Je suis d'accord avec eux. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'en rentrant dans le cinéma, on sait très bien que le scénario est bancal, que rien ne va, on a envie d'en rire, de se dire « Ah, ça c'est paralysé, ça va pas, etc. » Mais on passe presque un bon moment, parce que le cerveau est vidé, on n'avait pas envie de faire autre chose que de voir ce film un peu nul. On rigole beaucoup, nerveusement, devant la pauvreté des textes. Et donc c'est une mission réussie. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus intéressant culturellement parlant, et j'ai choisi Fast and Furious. Pour ce film, je vais mettre uniquement la note de 3, parce que d'autres films méritent largement mieux que ça. Thank you.